trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif est avec nous, gérant action internationale chez Fidelity. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Adrien Dumas nous accompagne également. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des investissements de Mandarin Gestion et Eric Turgeman est également à nos côtés. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes co-directeur de la gestion collective chez OFI Invest Asset Management. Avril est un mois qui... relance alors ce qu'on appelle le choc de taux, choc de taux réel qui a été assez rapide. On a dû reprendre peut-être, 40 points de base quand même sur des taux longs américains depuis le début du mois d'avril, avec un impact quand même significatif sur des classes d'actifs risqués comme les actions, puisqu'on a quand même un retracement de 3 à 5 % et peut-être même un peu plus maintenant pour certains grands indices actions des marchés développés. Eric, qu'est-ce qui a changé au mois d'avril et pour les actifs risqués? Est-ce que c'est plus un prétexte, une respiration, un prétexte pour prendre des profits, ou est-ce que c'est une histoire qui change un peu plus profondément?
Alors, ce qui a changé en avril, c'est maintenant la certitude que la Fed ne baissera pas cette fois ses taux, comme c'était le cas, les marchés le pensaient en début d'année. Les marchés actions, ils ont progressé depuis l'hiver en raison uniquement de la baisse des taux. La baisse des taux longs et puis les perspectives de baisse des taux courts. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de révision hausse des résultats. Alors, ils tiennent bien, ils ne sont pas mauvais pour l'instant. Mais par rapport à ce qu'on attendait en fin d'année 2023, on ne voit pas d'augmentation des perspectives. Donc, c'est-à-dire que c'est le moteur des taux qui avait fait la hausse. Si les taux se mettent à remonter, forcément, il y a une partie de baisse qui doit suivre. Mais ce n'est pas méchant aujourd'hui, parce que encore une fois, le marché a explosé de plus de 20%. Et là, on rend 3-4%. Ouais. Donc voilà, on rend parce qu'effectivement, on est même plus sûr que la Fed va baisser ses taux. De toute manière, s'ils le font, c'est maintenant entre une et deux fois. Et peut-être pas du tout si l'économie américaine continue à montrer cette vigueur, que l'inflation ne rentre pas complètement dans le rang. Donc on risque d'avoir une déception en la matière. C'est pas très grave si on repousse et que finalement en 2025 on fait les baisses qui n'ont pas eu lieu en 2024. Mais si on commence à se dire qu'il y aura moins de baisses aussi en 2025 et que le taux terminal, alors maintenant on parle du taux terminal à la baisse, avant c'était à la hausse, est plus élevé, on devrait avoir un ajustement de toute la courbe des taux et un 10 ans américain qui n'a pas de raison d'être beaucoup plus bas que ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Avec le risque éventuellement qu'il y ait un overshooting et qu'on aille autour de 5%. Donc ça, les marchés n'aiment pas. Et puis, ce qui arrive en avril, c'est quand même tensions géopolitiques qui se sont exacerbées avec les frappes iraniennes en Israël et vice-versa. Donc, un peu plus de primes de risque, des résultats qui ne prennent pas le relais et des taux qui se tendent. Donc, ça suffit pour consolider, avec en plus quelques déceptions sur des gros mammouths de la côte.
Ouais.
On vient d'en parler, mais Tesla s'effondre littéralement. Ah. Cette magnifique, elle n'a plus rien de magnifique.
Non.
Donc, ils sont plus que 6, les magnifiques.
Oui, même moins.
Et peut-être moins. Tesla, c'est 40% de baisse depuis le début de l'année. Et c'est plus de 50 sur les plus hauts, peut-être pas loin
de juillet 60, 2023,
Je crois que les plus hauts, c'était encore un peu avant.
C'était avant,
mais
d'accord.
Bon. Donc là aussi, ça veut dire que l'évaluation va dire quelque chose. On a vu Nvidia qui a plongé de 10%.
Ouais.
Si c'est que 10, c'est pas bien grave. Il faudrait pas qu'il y ait des mauvaises nouvelles, étant donné la hausse vertigineuse qu'elle a eue.
Ouais.
Donc comme les marchés en plus américains, même mondiaux, tiennent sur quelques valeurs, une déception sur deux ou trois d'entre elles peut effectivement entraîner cette consolidation. Donc voilà un peu le cocktail de...
Du mois d'avril.
Du mois d'avril.
Un mois de giboulé.
Et il n'y a pas eu encore... pas beaucoup de résultats qui ont été publiés.
Ah non.
La semaine va venir.
Ouais.
Il faut pas décevoir. Voilà.
Ouais.
À ces niveaux de valo, il faut pas décevoir.
Ouais. Faut que la croissance, que ce soit la croissance du PIB ou la croissance
des résultats
soit encore au rendez-vous.
Oui, parce que les valeurs de croissance, on est prêt à les payer 20, 30, 40 fois, à condition qu'elles soient des valeurs de croissance. Dès lors qu'on a un doute là-dessus, que la croissance est réajustée à la baisse, là, il n'y a pas de limite à la correction. Donc, il faut pas décevoir.
Ouais. Ok. quel niveau de vulnérabilité est-ce que vous évaluez dans le marché aujourd'hui, face notamment à la remontée des rendements, au choc de taux réels qu'on a vu se manifester ces dernières semaines, Bertrand ?
Alors, il faut rappeler qu'il y a une très forte dispersion en fait, des valorisations hein, dans les indices. Donc, c'est vrai que sur les indices, nous considérons qu'il y a un risque, notamment aux États-Unis, qui est significatif, puisque si on prend l'indice S&P 500 à 24 fois les profits, on l'inverse, on fait ce qu'on appelle l'earnings yield, un taux de rendement implicite, on est à 4%, ouais. On a des taux à 4,7, on a une prime de risque qui est implicitement négative. Ouais. Donc, investir sur l'indice américain, aujourd'hui, c'est effectivement relativement risqué. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Par contre, c'est vrai que si on reste aux États-Unis, on a une dispersion à la fois des performances, mais aussi des valorisations qui est quand même historiquement très très élevé, hein. On a rarement vu ça. Donc il y a beaucoup de sociétés qui ont des performances depuis le début de l'année, qui sont à zéro voire en négatif, et qui traitent à un ratio de résultats à un chiffre. Ouais. Donc il y a un potentiel en termes de sélection de valeurs qui est significatif encore aux États-Unis, notamment quand on va dans la strate des moyennes et petites valeurs, qui a été complètement délaissé, comme d'ailleurs dans d'autres géographies. Mais c'est aussi vrai aux États-Unis. Alors que d'autres choses ne sont pas forcément vraies aux États-Unis. Donc voilà, on trouve des opportunités. Après, il est clair que, avec Nvidia qui dévisse, et imaginons qu'il y ait aussi d'autres moteurs des 7 magnifiques ou des 6 magnifiques ou des 5, si on enlève Apple aussi, puisque Apple...
Oui, c'est négatif.
Aussi, hein, voilà,
oui, bien
voilà,
sûr.
Donc on va dire les 5
oui,
magnifiques,
oui.
Notamment Nvidia qui va officiellement donc reporter ses chiffres, publier ses chiffres dans un mois. Imaginons qu'il y a à nouveau une mauvaise surprise. L'indice va baisser fortement à cause du poids d'Nvidia. Est-ce que le reste du marché sera immune ? Malheureusement, non. Dans un premier temps, on peut imaginer qu'il y aura un effet d'entraînement, mais ce sera le moment de ne pas paniquer et au contraire de savoir saisir ces opportunités dans ces sociétés qui sont vraiment pas chères et qui ne se sont pas comportées aussi bien sur les 2-3 dernières années que les 5 magnifiques ou 7 magnifiques.
Comment vous expliquez que pour toute une partie de la cote du marché action, on a l'impression que le facteur croissance, et quand je dis croissance, c'est la croissance américaine notamment, a pas été pris en compte alors qu'il a été peut-être sur ou démultiplié pour d'autres valeurs?
Alors, le facteur croissance au niveau des valeurs, au niveau de la...
Bah, le facteur de croissance économique,
oui.
C'est-à-dire que, vous le dites, les mid-cap n'ont pas été portés par une croissance nominale américaine qui est toujours autour de 5%, quoi.
C'est là où il y a quand même un conundrum, entre guillemets, pour reprendre une expression de banquier centraux, dans le sens où, si on prend aujourd'hui les taux américains, sans anticiper qu'ils montent, et effectivement, ils peuvent monter, hein, il y a un scénario où ils continuent à monter.
Hein, on les a vus à 5%.
Sur très longue période, la moyenne des taux américains, c'est entre 5 et 6. Hein, donc, on n'est pas dans une aberration de marché. Non. On l'a été quand ils étaient proches de zéro. Là, ce n'est pas une aberration de marché. Mais dans cette configuration-là, c'est vrai que les valeurs de croissance, et en particulier ces grandes valeurs de croissance au sein des 7 magnifiques, n'auraient pas dû se comporter comme elles se sont comportées. De la même manière, des sociétés qui sont plus sensibles à la croissance économique... Et moins sensible à la remontée des taux, aurait dû mieux se comporter. C'est vrai que là, c'est assez compliqué à expliquer cela. Des bancaires auraient dû mieux se comporter. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la crise régionale, des banques régionales aux États-Unis, mais qui a été circoncis à cela. Mais la problématique, c'est effectivement pourquoi ces sociétés de croissance, d'hypercroissance, ont continué avoir leur multiple continuer à croître, hein, puisqu'il y a Nvidia, un multiple qui est plus élevé qu'il y a encore 5 ou 6 ans. Donc,
Oui.
Alors, effectivement, il y a eu des débats.
Bah, oui.
Ce que je veux dire, c'est que
il y a eu des
la remontée
autour de l'IA.
Des taux n'a
oui.
pas empêché le marché.
Non. L'IA était plus forte que la hausse des taux.
Multiples, effectivement, sur un certain nombre de. Voilà, ouais. de, en fonction des thématiques, sur un certain nombre de sociétés de croissance. Voilà, donc. C'est vrai que on pense qu'on a une conviction qu'il va y avoir un retour à la moyenne, une normalisation, et que toutes ces sociétés de croissance, et pas que les 7 magnifiques, vont voir leurs multiples se contracter. Alors certaines le compenseront en partie, ou peut-être plus qu'en partie, en totalité, par la croissance, enfin des bonnes surprises sur la croissance de leurs bénéfices. C'est peut-être que ce que certains attendent sur Nvidia. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais c'est ce qu'ils attendent. Mais il y en a d'autres, clairement, qui ne le compenseront pas. Hein. Une société comme Apple, à 35 fois pour 3% de croissance, il y a un moment donné où je pense qu'il y a une opération vérité qui va arriver dans les mois qui viennent.
Bon, avec beaucoup de cash quand même, toujours aussi au bilan hein, pour ces boîtes-là. Mais c'est vrai que les 7 magnifiques ont abondé quasiment 1000 milliards de capitalisation sur une seule semaine, la semaine passée. Adrien, je reviens sur cette histoire de taux. Sur l'ensemble du premier trimestre, le 10 ans américain est passé de 3,90 à 4,20. Le S&P a dû faire plus 10. Et là, depuis quelques semaines, on est passé de 4,20 à 4,60, 65, 70. Et là, tout de suite, on voit que ça cale. Il y a quand même aussi une question de niveau, quoi, à un moment, j'ai l'impression.
Oui, bien sûr. Les marchés sont dans une position d'attente, ont besoin de se rassurer par rapport, effectivement, à la croissance des résultats. Les marchés ont monté principalement sous l'effet du price et attendent que les earnings suivent. On a des espoirs, en tout cas, d'une réaccélération du momentum économique au deuxième semestre 2024 et au premier trimestre 2025. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent on est dans le point bas du cycle. Ouais. L'industrie semi-conducteur, l'industrie de la construction, où on attend une amélioration dans le courant de l'année. Donc c'est aussi ça que les marchés ont commencé à jouer en ce début d'année, en sachant qu'en plus, il y a l'effet saisonnier habituel octobre-mars, octobre-mars-avril, qu'on voit maintenant depuis 3 ans à cette manière assez importante en termes de performance des marchés financiers. Donc pour moi, la question, c'est est-ce que les résultats du premier trimestre vont confirmer le fait qu'on est plutôt dans le point bas et qu'on a effectivement une réaccélération au deuxième trimestre, puis de manière calendaire sur la fin d'année. C'est de ça dont les marchés ont besoin pour se rassurer un minimum par rapport effectivement à des performances qui sont assez décorées du scénario de taux d'inflation qui est effectivement complètement à l'envers de ce qu'on anticipait il y a 4 à 5 mois. Hein,
soyons pas clairs. Encore complètement à l'envers, mais...
pas loin.
Un peu décalé, effectivement.
Il y a ça. Après, moi, je pense que l'élément marquant quand même du mois d'avril, c'est le potentiel de découplage entre la banque centrale américaine et la banque centrale européenne. Ça, pour moi, c'est pas neutre parce que ça redonne un attrait relatif au marché européen qu'on n'a quand même pas vu depuis un petit bout de temps. Si on considère qu'il y a certaines grandes capitalisations américaines qui sont allées trop loin en termes de valorisation et qu'à l'inverse, on a une banque centrale européenne qui a une grande chance de faire plus de baisses de taux rapidement que la banque centrale américaine, on a un attrait relatif du marché européen qui, moi, me semble assez intéressant. Ouais.
Même si la BCE aura peut-être des marges de manœuvre limitées du fait que la réserve fédérale américaine, elle, resterait sur la retenue. Ça reste quand même market positif.
Oui, et je trouve même étonnant, je ne m'attendais pas à ce que les banquiers centraux européens continuent à communiquer de manière assez agressive sur nous, on pense que juin, c'est la bonne fenêtre et il y aura peut-être plus qu'une baisse de taux d'ici la fin de l'année. On a vu Villeroy de Gallo ce week-end.
Ah, oui.
Encore, je crois, un banquier central grec qui en a parlé ce matin.
Oui.
Il y a une vraie volonté d'être actif.
Villeroy, il le dit, juin, oui. Sauf grande surprise, c'est garanti, même avec l'inconnue pétrolière.
Exactement.
Qui était quand même un risque, effectivement, qui pouvait peut-être faire réfléchir à deux fois pour la baisse de juin.
Alors, il y a 2 mois, je pense qu'on n'imaginait pas la Banque Centrale Européenne, va être la première à lancer le sujet de la baisse des taux. Alors, il y en a eu d'autres qui l'ont fait. Hein, la Banque Suisse l'a fait il y a maintenant 3 semaines.
Ouais.
Mais oui, c'est un signal assez fort et je pense qu'il peut donner de l'attrait, de l'intérêt au marché actions européennes, en relatif en tout cas des marchés internationaux.
Sur la devise, est-ce que ça peut avoir un impact majeur ?
Ça devrait
participer à...
Ça a pas mal commencé à l'être quand même. Hein. L'euro a pas mal reculé. Après, je pense que dans la perception des marchés, des investisseurs internationaux, l'euro reste la devise de l'Allemagne. Et l'Allemagne est dans un momentum économique qui est quand même un peu meilleur. On vient de vivre depuis 1 an des chiffres extrêmement décevants d'un point de vue allemand. On a je parlais tout à l'heure de retournement cycle ou des éléments cycliques qui s'améliorent un petit peu en calendaire, deuxième trimestre sur la fin de l'année. L'Allemagne est certainement un des endroits sur lesquels on aura le plus d'améliorations. Ça peut être aussi un élément stabilisant. Mais de nouveau, un temps des banquiers centraux européens aussi agressifs, alors qu'on sait que le sujet de la devise est un sujet important. Parce que si l'euro dévisse, on va se remettre des sujets d'inflation importés de manière assez, assez conséquente. C'est un signe assez fort.
Ouais. Bon, l'euro a un peu baissé, mais malgré les dernières prises de parole de Villeroy de Gallo ou autres, ça baisse pas plus. Hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas à 1,05 non plus pour l'instant sur l'euro dollar.
Je pense qu'il faudra attendre, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a des grandes adjudications côté américain.
Oui.
Rappelez-vous quand même qu'il y a en juillet, en août l'année dernière, on s'était fait peur sur la demande, les acheteurs naturels de dettes américaines, avec pas mal de pays émergents qui sont en train un peu de se retirer de ce marché-là, le Japon aussi qui se retire de ce marché-là. Donc cette grosse semaine sera aussi un test sur l'appétit pour de la dette américaine et l'impact que ça peut avoir sur les devises. Ah,
on a vu sur du 10 ans ou du 30 ans il y a 2 semaines, il faut toujours payer un petit rendement supplémentaire pour être sûr que tout le papier passe bien auprès des acheteurs. La divergence Fed-BCE, quels enseignements potentiels vous en tirez? On n'y est pas encore, mais bon, c'est ce qui se dessine.
Alors, ils ont intérêt à baisser les taux à la BCE, parce que sinon c'est un carnage. Ils se sont tellement engagés cette fois-ci que là, ils ont vraiment pas le choix. Donc, il va falloir baisser les taux. Après, ils vont le baisser avant la Fed, ce qui n'était pas done deal en début d'année. On ne pensait pas ça. Ils ne peuvent pas baisser autant que ce qu'ils auraient voulu faire si la Fed ne baisse pas du tout les taux cette année. Parce que derrière, il y aura quand même un risque sur la devise. Ouais. Ils n'ont sans doute pas envie de voir l'euro sous la parité.
Écart de 2-3 mouvements, c'est possible. Au-delà, ça devient très compliqué.
3,
quoi.
C'est beaucoup.
3, c'est déjà beaucoup.
3, c'est déjà pas mal.
Ouais, ouais.
Donc, ils vont commencer à baisser. Si la Fed ne réagit pas et que la Fed ne baisse pas du tout en 2024, une deuxième fois, mais après derrière il y a un risque sur la monnaie, donc voilà. Mais enfin oui, ils vont baisser les taux. Après la croissance c'est pas du tout la même aux États-Unis et en Europe.
Non, bah c'est sûr.
Donc il y a des raisons. Je voulais juste revenir sur. On parlait de la raison pour laquelle les valeurs de croissance avaient progressé en dépit de taux qui se tendaient. C'est vrai que c'est pas du tout logique. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à un moment donné, Nvidia par exemple, on va prendre cet exemple, on disait elle est à X fois les bénéfices, c'est pas donné. Simplement que l'annonce des bénéfices, là pour le coup, on a revu en hausse les bénéfices grâce à l'IA ou aux promesses de l'IA. Et la communauté financière s'est dit bon, un peu comme faire attention à Internet en 2000. L'IA va générer des profits fabuleux.
Faramineux, ouais.
On les sous-estime, on n'a pas vu, et donc tout ce qui est lié à l'IA va faire des profits supérieurs à ce qu'on estimait. Alors Nvidia a bondi, Microsoft et tous les producteurs de puces aussi, et on a vu tout ce qui a suivi, ASML, etc. Et donc à un moment donné, on se fiche de l'actualisation des profits, parce que voilà, c'est le. Il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui a fait cette déconnexion, et que finalement, tout ce qui était lié à l'IA montait. Il suffisait de le dire. Qu'il y avait... Mais ça me rappelle, franchement.
Mais on est arrivé à ce point de paroxysme ces dernières semaines ou ces derniers mois, parce que Nvidia, je parle sous votre contrôle aussi, vous suivez particulièrement la croissance, la tech américaine. Chaque publication était effectivement meilleure que prévu, mais du coup, la valo était relativement stable, justement.
C'est pour ça, en fait, on a fait un rideau.
Il y a des valeurs plus chères en Europe, dans le luxe, par exemple. Oui, c'est pas les mêmes franchises, je suis d'accord. Mais
dans le luxe, même dans la tech, ce système n'est pas donné du tout. Mais le fait qu'à un moment donné, quand vous êtes plus capable de prévoir les résultats et qu'on vous dit qu'il y a une demande qui va exploser encore plus forte, et qu'en plus, votre environnement fait qu'il y a de l'IA partout... Vous vous dites, oui, on a dû négliger l'IA pour ceci, l'IA pour cela, et c'est très dur de faire une évaluation, donc vous achetez. Voilà. Et puis vous achetez toutes les valeurs qui peuvent ressembler de
proxy. Qui sont des proxys, quoi.
Mais là aussi, il n'y aura pas que des gagnants. Voilà, donc peut-être qu'Nvidia sera le gagnant,
À ce stade, ça semble être même le gagnant à ce stade.
Jusqu'à ce qu'on nous dise.
Est-ce que la position pourra être pérenne de ce point de vue-là ? Je suis d'accord.
Apple a été comme ça dans ce cas-là pendant des années. Il y aura peut-être un concurrent ou deux ou des Asiatiques.
Oui, les clients d'Nvidia ont tout intérêt d'ailleurs à ce qu'il y ait des concurrents qui montent en puissance et en gamme.
50% de marge nette, c'est supérieur même aux sociétés du luxe. Donc on peut imaginer que ça va quand même attirer dans un secteur où il y a moins de barrières à l'entrée sur le luxe.
Oui.
D'ailleurs, il y a même une société qui s'appelle Krog. Des multiplications d'articles sur Internet. Krog, voilà. On arrive difficilement à prononcer. Qui elle-même annonce que d'ici quelques mois, elle aura, pour le même prix que Nvidia, une chip qui sera plus compétitive. Après, est-ce que c'est vrai ou pas ? Il y a tout un débat d'experts. Je veux dire, c'est que personne ne dit aujourd'hui qu'ils seront vitam aeternam protégés de toute concurrence.
Après, il y a la capacité de production qui compte un peu.
J'ai
l'impression que c'est quand même à produire...
50% de marge nette.
Oui.
Pas opérationnelle, nette.
Oui, bien sûr.
C'est un risque.
Allons-y sur l'IA.
Je ne prendrai pas la baisse Nvidia de vendredi dernier comme un élément sur... on est au bout du pic de valorisation. La baisse de Nvidia, elle s'explique qu'après une semaine, on a eu deux mauvaises nouvelles dans le secteur. Il y a la publication d'ASML qui a été très décevante sur le carnet de commandes. On attendait des grosses commandes, notamment côté asiatique, qui pour l'instant ne sont pas dans les carnets de commandes d'ASML. Donc, est-ce qu'il viendra au troisième trimestre ? C'est un peu la promesse qu'a fait ASML. En fait, le titre a perdu quasiment 10% sur les publications. Et mercredi ou jeudi, il y a eu la publication de TSMC, qui est lui aussi un des gros donneurs dans l'industrie.
Et qui nous a pas rassuré.
Qui n'a pas revu particulièrement aussi les intentions de CapEx, qui a parlé d'accélération dans l'IA, mais des ralentissements dans toutes les autres industries, notamment la téléphonie et l'automobile, qui sont deux segments importants aussi de l'industrie, les semi-conducteurs. Voilà, donc... C'est des éléments qui ont mis un coup de frein sur le momentum très positif de l'IA, où il est vrai que depuis 4-5 mois, on n'avait que des surprises positives ou des éléments positifs pour dire effectivement cette technologie se déploie beaucoup plus rapidement prévu et les taux de croissance qu'on attend sur Nvidia sont plus importants. Moi je ne le verrais pas comme un signal particulier. Déjà, je pense que les 7 magnifiques ne sont pas du tout à comparer les unes aux autres. Elles ont des histoires très très spécifiques, des leviers de croissance qui sont quand même très différenciés les uns des autres. On a eu tendance à les mettre dans le même paquet parce qu'elles ont les mêmes caractéristiques. C'est des grosses capitalisations, très rentables. rentables, assis sur des gros bilans, qui ont beaucoup bénéficié de ce scénario d'incertitude et de taux et d'inflation. Mais voilà, je ne le vois pas, en tout cas, la baisse de la semaine dernière comme élément déclencheur, quelque chose de plus structurel. Il faudra attendre la publication, notamment Nvidia, qui effectivement est tardive, c'est un peu dans un mois.
Ouais.
Alors il y aura AMD avant, il y en aura d'autres, mais qui donneront des éléments sur la rapidité de déploiement de l'IA, mais qui donneront un peu.
Il n'y a pas de raison que la trajectoire d'Nvidia, je parle en termes de chiffre d'affaires, de croissance demain, soit abîmée ou cassée à ce stade.
Pour l'instant, non. Et il faut bien avoir en tête quand même que ce qu'ils ont présenté au Capital Market Day il y a un mois, qui a quand même été... Il y a la dernière jambe de hausse des titres Nvidia, la notion de passer du hardware au software.
Ouais.
C'est de ne plus être seulement un fournisseur de technologies de puces, c'est d'offrir une plateforme d'accès à des développeurs de logiciels pour accélérer le déploiement de l'IA.
Ils ont conscience de ce qui peut être leur vulnérabilité demain.
Bien sûr. Bien sûr, et le mouvement du modèle du hardware au software, Apple en est certainement un des meilleurs modèles, mais c'est effectivement ce qui est le plus
lucratif. Et du coup, le cycle des semi-conducteurs, on en est où? Parce que vous me dites que le cycle IA, lui, il ne s'est pas arrêté, mais pour l'automobile et la téléphonie, peut-être qu'on n'a pas encore vu le point bas. Enfin, c'est plusieurs cycles dans le grand cycle des semi-conducteurs.
Je partage tout à fait l'idée qu'on est dans un marché aujourd'hui, il y a beaucoup de besoin de sélectivité. Et même dans le secteur des semi-conducteurs, il y a des écarts de performance qui sont de plus en plus importants. En fonction de l'exposition en termes de marché final, il y a des gros écarts de performance. STMicroelectronics, qui est très dépendant de Tesla, d'Apple, qui a une grosse exposition automobile et téléphonie,
souffre plus.
Sur lequel on se pose beaucoup de questions sur les publications des prochains trimestres. Alors que des activités qui sont assez comparables avec des marchés finaux très exposés à l'intelligence artificielle, on est un peu plus rassuré sur la dynamique de croissance. Ouais. Donc cette sélectivité, en fonction des marchés sous-jacents, elle est effectivement de plus en plus importante.
Il y a aussi l'aspect matières premières qui marque aussi ce mois d'avril. Bertrand, qu'est-ce que vous en dites? Alors, je parle des cours des matières premières et des secteurs boursiers associés. Déjà, sur les cours des matières premières, c'est plus juste le pétrole ou le cuivre, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus large. C'est l'ensemble du segment matières premières qui monte. Et y compris les précieux, même dans ce contexte. Quel rationnel vous mettez derrière ce réveil généralisé des matières premières là ?
Alors, il y a différents éléments. Il y a évidemment une prime de risque géopolitique. Bon, tout le monde la connaît. Après, il faut la quantifier. Après, il y a le fait que les États-Unis ne vont pas être en récession. Je pense que maintenant, plus personne n'a cette conviction. Donc, de ce fait, la question maintenant est sur la Chine. Mais la Chine, on sait que le potentiel, il est à la hausse, il n'est pas à la baisse. Le pire, c'est le scénario du pire, c'est que l'économie ne fasse rien. Mais on ne voit pas l'économie non plus s'effondrer. On voit qu'il y a des effets aussi de restockage dans certains segments et certains secteurs en Chine, donc ça aussi, ça aide. Et puis, il y a des éléments un peu plus techniques. On a vu que le Royaume-Uni et les États-Unis ont interdit les importations donc depuis le 15 avril de nickel, de cuivre et surtout d'aluminium provenant de Russie. Il faut avoir en tête que sur le London Metal Exchange, 93% des stocks proviennent de la Russie.
Donc, pour ces métaux ?
Pour ces métaux-là. Enfin, pour l'aluminium, c'est 55,
d'accord.
cuivre.
Enfin, d'accord.
Mais c'est une proportion significative.
D'accord.
Donc, on est aussi, d'un point de vue technique, ces éléments-là, avant qu'on reconstitue ces... Alors, ces stocks, évidemment, ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ils vont graduellement disparaître, être remplacés plus difficilement par d'autres géographies. Et donc, ça va mettre une tension.
Le LME est obligé d'avoir en collatéral, ou en sous-jacent, en tout cas, du stock physique. C'est ça.
Et donc, comme ces métaux russes étaient plutôt bradés, puisqu'ils avaient du mal à les vendre, ils se retrouvaient effectivement sur le LME, qui est un peu l'organisme de stockage en dernier recours, qui prend un peu tout ce qui arrive, qui n'a pas été vendu ailleurs. Donc le fait d'interdire ça va mettre quand même une pression à la hausse sur notamment l'aluminium en Europe. En plus, en Europe, on cherche de l'aluminium propre, alors c'est compliqué, donc il y a déjà une prime par rapport au prix mondial, mais là, cette prime, elle va encore augmenter, notamment donc, effectivement en Europe. Il y a toute une conjonction d'éléments. Plus la mise en place, puisqu'aux États-Unis, on a parlé depuis un moment de l'Inflation Reduction Act, avec ses investissements très forts dans l'énergie renouvelable. Et en fait, ils sont en train de se mettre en œuvre maintenant. C'est-à-dire que les commandes sont passées maintenant.
Oui.
Et effectivement, ça se répercute sur toute la chaîne de valeur. Et en amont, évidemment, sur les matières premières, le cuivre en particulier.
Les métaux les plus liés à la transition énergétique.
Après, sur l'or, il y a un élément particulier, c'est que le fait que un certain nombre de banques centrales asiatiques, en particulier la banque centrale chinoise, est acheteur net tous les jours. C'est-à-dire que quand vous regardez le pourcentage des réserves de change qui sont couvertes par de l'or en Allemagne, par exemple, c'est 70%. En Chine, c'est 5%.
D'accord.
Ça vous donne une idée, en fait. L'attrapage qu'il faut, en fait. Ils sont en train d'essayer, effectivement, de normaliser
la
banque centrale et ils achètent tous les jours de l'or.
D'accord.
Donc là encore, on est sur une tension.
Sur le plan boursier, ça se traduit, est-ce que ça se traduit par de l'intérêt pour des secteurs, des mines, des secteurs liés à l'énergie, et puis même peut-être, pourquoi pas, des minières argentifères, aurifères, etc. Est-ce qu'il y a une corrélation assez nette là ?
Alors oui, alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a en fonction des zones géographiques qui sont plus ou moins risquées géopolitiquement pour extraire ces domaines-là, on pense notamment à l'Afrique, c'est un peu compliqué, il y a les primes de risque quand on investit en direct dans ces groupes miniers, évidemment. Là, je pense que, enfin nous en tout cas, ce qu'on joue, c'est plus de jouer soit via des groupes qui sont très internationaux, donc qui diluent ce risque-là, ou alors en achetant des instruments sur le qui répliquent, donc qui achètent de la commodité.
Sur les marchés de matières premières.
Exactement. Ou alors qui les répliquent via des produits dérivés. Mais en tout cas, c'est plus intéressant, à notre avis aujourd'hui, de suivre la matière première en direct que d'aller chercher un effet de levier via une société minière qui peut avoir des soucis. Même les grosses peuvent avoir des soucis parce que des fois, elles n'ont pas les permis pour augmenter leur production. Elles ont des problématiques, comme on l'a vu en Australie, notamment sur le manganèse, où vous avez un problème et la mine, elle est fermée pendant au moins 6 mois.
Oui.
Ça permet d'avoir une optique un peu plus diversifiée, d'acheter en direct la matière première.
Ouais. Sur le plan boursier, les matières premières, c'est stratégique dans un portefeuille.
C'est déjà pas terrible pour l'inflation. C'est pas terrible pour l'inflation. Et à ce propos, le pétrole ne s'emballe pas.
Le pétrole est plus bas que le 13 avril. Et j'ai regardé pour le WTI, je pense même qu'on est plus bas que le 7 octobre, qu'avant le 7 octobre.
Pour autant,
faire référence aux dates clés, on va dire, des événements au Moyen-Orient.
Et pour autant, le consommateur français paye son litre d'essence à 2,20€, 2,30€. Là, je prenais l'autoroute il n'y a pas longtemps.
Ah, sur l'autoroute,
alors, à part Total qui a figé à 1,99€, ça devient de plus en plus cher. Alors comment traduire c'est pas neutre. Et effectivement, techniquement, il y avait des afflux, enfin, il y avait des ventes qui commencent à se tarir. Donc entre les mesures qui ont été prises et qui bloquent Russie 93-94%. Enfin,
les stocks du LME qui viennent de Russie pour l'aluminium.
C'est complètement dingue, quoi. Et la transition énergétique, à un moment donné, ça fait longtemps qu'on le dit.
Oui.
Ça avait du mal à prendre, mais à un moment donné, ça va se prendre. Bon. Donc nous aussi, on est plus sur la matière première que sur des...
Il y a un fonds dédié, bien sûr.
Qui a bien remonté depuis quelques semaines, plutôt que les valeurs les minières, etc., elles sont quand même bannies par l'ISR. Elles sont exclues de beaucoup, beaucoup de portefeuilles, en tout cas en Europe, peut-être moins aux États-Unis. Bon, donc autant jouer directement par la matière première.
Ouais. Ça me fait penser un peu au secteur de la défense.
Oui, qui est banni aussi.
Et puis quand ça se met à faire des plus 50% sur un an, peut-être que la défense, c'est social, finalement. Non, mais c'est des réflexions
c'est
en cours. C'est des réflexions en cours. Mais je me dis qu'à un moment, sur les matières premières et sur les mines, il faudra bien aussi que le sujet soit traité
de manière
peut-être un peu plus pragmatique. Je ne sais pas, sur les matières premières, sur les mines, c'est peut-être pas votre univers d'investissement naturel, mais...
Non, ce qui est sûr, c'est que les...
C'était des secteurs les plus en retard au terme du premier trimestre, par exemple.
Et on voit bien qu'effectivement, notamment, c'est très visible sur le marché américain, hein, tous les paniers reflation, donc ceux qui avaient très bien fonctionné, on va dire, sur la première partie de l'année 2022, ont clairement repris le lead en termes de performance sur les marchés. Ouais. Donc oui, ça traduit bien le fait que le marché se soit mis dans un mood différent par rapport à l'évolution des taux, l'évolution de l'inflation, et effectivement, quelques tensions sur quelques matières premières. En termes de comment les adresser, le sujet du recyclage des métaux est intéressant. Il y a quand même pas mal d'acteurs cotés en Europe, aux États-Unis, en Asie.
Donc là, c'est le secteur des utilities, c'est ça?
Spécialement,
il y a des acteurs plus spécifiques même.
C'est un secteur qui est quand même assez diversifié en bourse.
Je reviens sur Tesla aussi, Adrien, parce qu'on en parle avec vous depuis tellement longtemps. Comment vous disiez, Eric, c'est un effondrement? 40% de baisse. Oui, non, mais je suis d'accord. Donc, je voulais reprendre votre votre terminologie. Bon, après, c'est des valeurs qui peuvent diviser par deux, faire fois deux, etc. On le sait. Mais là, ils sont à, dans quelle phase? Il nous avait dit, on est entre deux vagues, Elon Musk. Et pour le coup, il s'est pas trompé, je crois.
Il s'est pas trompé. La question, c'est ce que la deuxième vague va venir.
Assez clairvoyant là-dessus. Il l'a bien signalé à tout le monde. Bon, donc voilà. Et c'est quoi le creux de la vague? C'est quand?
Le creux de la vague, je sais pas si on y est. En tout cas, on doit pas en être très loin. Parce que continuer à baisser les prix pour défendre les volumes et les gains de parts de marché et mettre la pression sur la rentabilité des concurrents, ça fonctionne quand même plutôt pas si mal que ça. Alors ça fonctionne pas pour les actionnaires de Tesla, mais les concurrents en face sont quand même en grande difficulté. Les gros acteurs chinois qu'on voyait comme étant des potentiels disrupteurs de la position de Tesla, les NIO, XPeng, il y en a certains qui sont en grande difficulté financière.
Sur leur marché, enfin non mais oui, difficulté financière, de toute façon ont-ils jamais gagné de l'argent ces groupes-là?
Rentabilité estimée, projetée à 2 ans depuis 4-5 ans.
C'est bien la question, oui, c'est bien la question.
Donc, c'est le sujet qu'on reproche assez verbalement maintenant, officiellement, à Chine, qui est de créer des surcapacités dans beaucoup d'industries. Donc Tesla est face à ça, à cette surcapacité d'acteurs chinois et sa capacité de différenciation.
Et sur le marché chinois, ça marche, leur stratégie?
Sur le marché chinois, pour l'instant, en termes de part de marché, oui, ça a été bien plus résilient que ce qu'on pensait. Ouais. Alors, effectivement, avec des rentabilités espérées qui sont beaucoup plus faibles. C'est un équilibre de je préfère perdre de la marge à court terme pour gagner ma part de marché à long terme. Ouais. Est-ce que ça fonctionnera? La question reste ouverte, en sachant que je rappelle quand même l'objectif, c'est de plus facilement faire de la marge sur la vente du véhicule, mais sur tout ce qui sera autour, donc le service, l'accès à Internet au sein de la voiture, le fait que la voiture devienne de plus en plus autonome, c'est ça qui, à terme, devrait créer de la valeur, si on croit au plan long terme d'Elon Musk. Donc, la notion de part de marché est extrêmement importante, parce que plus on déploie, plus on a cette capacité.
C'est la base installée, quoi.
Exactement. Ouais. Un modèle, on passe là aussi du hardware à autre chose, à du software ou à du service. Donc, voilà, et effectivement, on est dans ce moment-là. Il y a beaucoup, quand même, acteurs européens qui font un peu marche arrière quand même sur le véhicule électrique en disant on sera peut-être pas rentable aussitôt que prévu, on met moins de capex que prévu. Il y a du lobbying aussi pour dire finalement est-ce que le véhicule électrique est aussi vert que ce qu'on pensait. Donc voilà, on sent que oui, il y a des tensions sur beaucoup de marchés. Où,
et en même temps, ils nous disent faut plus changer le calendrier. C'est un peu le message des derniers jours. Comment il a dit, Tavares, je suis un avion sur la piste de décollage, pleine puissance. Si vous me retirez la piste, ça va mal se passer.
Exactement. Donc, et après, n'oubliez pas, sur le marché domestique, on a un candidat probable en tête des sondages aux élections américaines qui est clairement anti-véhicule électrique. S'il y a un des sujets sur lesquels il y a une vraie remise en cause du plan Inflation Reduction Act de l'administration Biden, c'est clairement le véhicule électrique.
Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous l'avez démontré vous-même, l'IRA bénéficie aux États républicains et aux élus républicains.
Il va finir de couper les subventions, en tout cas les couper peut-être plus rapidement que prévu pour que le déploiement soit un petit peu moins long que prévu. Mais je suis d'accord, ça ne remettra à mon avis pas en cause à moyen long terme le déploiement du véhicule électrique. Mais il y a des sujets de compétitivité, de gain de part de marché, de compétitivité relative. Alors dans tout ça, ce qui aide quand même, c'est que jusque-là, certains prix des matériaux ont beaucoup baissé. Le prix du lithium, le prix des batteries a énormément baissé. Dans cette phase de baisse de prix que est en train de déployer Tesla, ils ont quand même à la limite un coussin qui est positif.
C'est pas que de la marge qui baisse, quoi.
Non. La question, c'est est-ce que cette stratégie devra être inversée le jour où ces matières premières, notamment lithium, retrouveront des prix plus élevés? Ça restera bon.
Mais je peux rajouter un mot sur Tesla, juste une seconde. Il n'y a pas que l'automobile qui fait baisser Tesla. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas justifier le cours de Tesla uniquement en tant que constructeur automobile. Oui. Parce que, on voyait bien que c'était la somme de tous les constructeurs du monde, alors qu'ils avaient une part de marché infime à l'échelle mondiale. Donc quand on achetait Tesla, on était persuadé qu'on achetait aussi Elon Musk et sa capacité à faire autre chose.
Le logiciel, comme disait, c'était une boîte de software.
Et éventuellement aller concurrencer Nvidia en se disant Elon Musk va faire autre chose.
Possible.
Donc il y a pas que... et en fait, on voit rien venir. Pour prendre le relais des autos. Alors, il y a rien qui vient. Les autos baissent un peu, donc la rentabilité du constructeur baisse. Et donc Tesla, c'était un constructeur plus le rêve de quelque chose. Si le rêve n'aboutit pas, on commence à se lasser. Ouais. Mais c'est pas que les véhicules.
Plus les taux qui montent, et là, c'est le cocktail, c'est la tempête parfaite,
beaucoup,
comme on l'appelle.
C'est beaucoup plus, tout le monde était dedans, et il y avait un effet moutonnier.
Bon, est-ce qu'on est en train de revivre la séquence de l'été 2023, où on avait eu quand même un très bon début d'année sur la partie action, ça s'était plutôt bien passé, et puis l'été n'avait pas fait grand-chose, et puis il y avait quand même un moment... une grande bascule à la fin de l'été. avec des taux longs américains qui ont fini par se tendre sur le 10 ans jusqu'à 5% fin octobre. Est-ce qu'on revit un peu ce genre de séquence aujourd'hui ou pas, Eric ? On verra.
Parfois, ça dépendra. Ouais, ouais. Non, mais... enfin, les... Moi, j'attends rien des bénéfices. C'est-à-dire qu'on a, je trouve qu'on a une assez bonne visibilité des bénéfices et je serais surpris qu'à la fin de l'année, on révise en hausse.
Je comprends.
Voilà. En plus, on a une.
Si on fait déjà ce qui est prévu, ce sera bien.
Et puis, c'est pas mal.
Ah, bah, c'est même très bien, bien sûr.
On a une croissance mondiale qui est un peu revue à la hausse. Ouais. Croissance mondiale qui va tourner à pas loin de 3%.
Ouais.
À ce niveau de croissance mondiale, bon, c'est la fameuse équation que je donne, on a des résultats qui ne baissent pas d'une année sur l'autre, en Europe en tout cas. Bon, donc c'est pas le risque, il vient pas tellement de ça. Alors, il y a le risque géopolitique, mais ça, c'est dur à prévoir.
Donc, ça reste sur les taux.
Et ça reste sur les taux. Donc, effectivement, à quel moment le 10 ans va commencer à se dire que des taux courts qui sont courts, mais qui ne baissent pas, deviennent des taux longs. Enfin, voilà. Donc, le risque est là. Et puis, bon, faut Trump, hein, quand même. Hein, faudra quand même... là, on se rapproche, il est favori dans les sondages, il peut passer.
Oui.
Et à partir de là, il y a pas mal de... Bon, c'est dur à prévoir, mais là, sur le contexte géopolitique, ça, ça peut swinguer un peu partout. Il peut se désengager de l'Ukraine, il peut être plus présent au Proche-Orient. Voilà, enfin, ça peut...
Moi, je suis admiratif de tous les stratégistes qui ont effacé, bah, évidemment, au fur et à mesure de l'année, les baisses de taux 2024 pour ne placer que des baisses de taux post-élection, maintenant. Il y en a, c'est pour qui le premier mouvement commence en décembre, par exemple. Ah ! Avec quand même l'énorme inconnu du 5 novembre, quoi. Et dans ce contexte, on reste quand même un peu pro-risque, on se met neutre un peu partout.
Nous, on a abordé l'année en étant neutre sur les actions, en se disant on ne va pas dépasser, on aura une hausse
à des bénéfices.
À un chiffre.
Ouais, d'accord. Voilà. Okay.
Bon. Le problème, c'est que la hausse, c'est un chiffre. On était à deux chiffres au bout de trois mois, donc on n'était pas forcément à l'aise, parce qu'être neutre quand les marchés montent, il faut le reprocher. Là, on revient en arrière. Ouais. Effectivement, il y a eu des replis de 4-5%, mais le Nasdaq, alors, je ne sais pas combien il est actuellement, mais ce matin, il était à plus 1,5% depuis le début de l'année. Hein.
Ah oui, pas loin d'être négatif.
Pas énorme.
Oui, bien sûr.
Et ça se trouve en fin de séance aujourd'hui.
Oui, c'est possible.
Ouais. Voilà. Donc, on est plus... on est relativement à l'aise avec ces niveaux-là. Et ce n'est pas cette consolidation qui nous donne envie de racheter et de passer positif.
Très clair. Voilà. C'est pas un retracement suffisant.
Non, pour, pas suffisant.
Aujourd'hui. Dans l'univers des marchés actions, dispersion, donc sélection, c'est ça, Bertrand ?
Donc voilà, aux États-Unis, nous on regarde plutôt les capitalisations moyennes, ou alors des grandes capitalisations, mais pas les méga, mais dans des secteurs qui sont pas forcément, donc comme les financières, regardez aujourd'hui, hein, avec dans l'idée, encore une fois, qu'il faut être prudent sur les banques régionales américaines, mais les banques, on va dire, nationales, à échelle nationale, ont des rentabilités qui sont exceptionnelles aujourd'hui. Et bon, le fait que les marchés financiers ne s'effondrent pas, ce qui était aussi un des risques cette année, en tout cas jusqu'à présent, est quand même plutôt favorable pour ces sociétés-là. En termes géographiques, nous, on regarde quand même pas mal l'Europe, puisque c'est vrai que l'Europe est pas chère. L'écart de valorisation relatif avec les États-Unis est quand même à un pic. Et puis en plus, quand on fait le retraitement qu'on fait aussi aux États-Unis en enlevant les 7 magnifiques, on peut le faire en Europe en enlevant les granola, hein, les L'Oréal, ASML et Novo Nordisk. Là, on a quasiment. Alors, on n'est pas à un chiffre, mais on est à 10 fois, les 10, 11 fois le marché américain, le marché européen sur les profits.
Les earnings,
C'est quand même historiquement extrêmement bas.
Oui.
Donc, même s'il y a toutes les problématiques qu'on a sur l'Europe est plus sensible, l'Allemagne est en récession, etc. Mais comme ça a été dit, la Banque Centrale Européenne va baisser ses taux avant, c'est quasiment sûr. Alors après, de combien, on ne sait pas. Mais donc, stimuler l'économie, ça va donner un appétit sans doute un peu plus important pour les actions.
Et qu'est-ce qu'on achète en Europe, alors ? S'il faut s'exposer à l'Europe, là, c'est quoi l'angle ?
Pour le coup, la repentification de la courbe des taux qui devrait arriver est favorable aux financières.
Donc les bancaires, mais ça fait déjà très bien les bancaires. Ça tient.
L'assurance sont.
Ouais, banque, assurance, mais ça fait partie des secteurs leaders en Europe.
Ils payent des dividendes qui sont quand même significatifs, au-dessus de 5%. Hein. Donc pour nous, on est un peu pay to wait, hein, comme on dit en anglais. Hein. Même si notre scénario met 6 mois de plus, on touche des dividendes qui sont significatifs et qui ne sont pas, de notre point de vue, à risque. Donc, les financières, les matières premières, effectivement, pour jouer ces effets. Fait de rattrapage. L'automobile nous paraît être intéressante aussi, puisqu'on arrive sur la fin du déstockage dans l'automobile, hein, et on voit que la demande pourrait être stimulée par des baisses de taux en Europe, là où elle est à tonne.
Ouais, bien, parce qu'il y a aussi la fin des aides pour l'électrique. Enfin, il y a voilà. quand même des aides qui s'estompent sur l'électrique.
Les Allemands, il y a un rejet de l'électrique. Hein, quand il y a l'effondrement des ventes de véhicules électriques. Et d'ailleurs, on va voir que les pouvoirs publics,
c'est cher, hein.
Les pouvoirs publics vont également stimuler c'est ça. C'est pour ça qu'ils enlèvent les aides. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Chinois sont en train d'investir l'Europe, le marché européen des véhicules électriques. MG, qui est détenu par SAIC, une société donc chinoise, c'est les premières ventes de véhicules électriques, c'est même pas Tesla. BYD, pareil, ouais. y a des ambitions extrêmement fortes en Europe. Donc on est en train de se rendre compte au niveau des politiques que tout l'argent qu'on injecte, c'est pour stimuler l'économie chinoise. Donc ça aussi, ça... Voilà. Et donc il y a un redéplacement, effectivement, dans un premier temps, les gens n'achètent pas, et ensuite ils vont avoir besoin d'acheter, ils vont acheter à nouveau, je pense, des véhicules hybrides ou thermiques. Donc ça devrait aider, là encore, ce secteur-là.
Bon, sur le positionnement action, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui? L'Europe en relatif, là aussi d'accord avec ça,
oui, l'Europe en relatif, ouais. Pas mal les secteurs cycliques, hein, je leur ai dit, les secteurs très liés à la construction qu'on regarde.
Amélioration cyclique, hein.
Ouais, progressivement,
oui.
avec
Ah oui, on parle de manière pas, calendaire. Hein. Bertrand dit l'Allemagne en récession, bon, déjà... Elle n'y a pas franchement été, mais non, mais je suis d'accord avec vous. Ça fait deux ans que ça bouge plus. Ouais. Mais c'est vrai que là, je crois que le gouvernement allemand va même réviser à la hausse ses prévisions de croissance. Alors ça va être de 0,2 à 0,3. Mais voilà, c'est un tiers de plus.
Dérivée seconde est extrêmement positive.
Et donc ça peut se jouer encore dans les marchés.
Ouais, dans des marchés effectivement qui retraitaient des grosses capitalisations, se traitent 10 fois 11 fois. C'est une allumette qui permet certainement d'avoir un petit peu d'attrait pour ce marché. Voilà. Après, de manière internationale. On continue à bien aimer l'Inde. Il y a des élections qui ont commencé vendredi, qui n'ont pas de grandes surprises. Hein. C'est certainement le parti de Narendra Modi qui remportera les législatives. Mais
comment on contourne la cherté du marché indien? On l'accepte
par la profondeur. C'est-à-dire que le marché indien, il est là encore, il est très cher parce qu'il est très très concentré sur tout ce qui a bénéficié de l'IA, parce que les grands groupes d'IT hein, sont des poids importants de ce secteur, et tous les gros poids aussi de la consommation qui ont beaucoup bénéficié d'un effet inflation salariale. Et une inflation locale qui a été plus faite. Donc tous les secteurs de la consommation qui ont aussi eu beaucoup de revalorisation. Dans les secteurs industriels, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes. L'Inde devient progressivement aussi une plateforme de production pour l'internationalisation. C'est pas innocent si Apple s'est posé des questions sur sa prochaine capacité de production. Tesla s'est posé des questions sur sa prochaine capacité de production en Inde. Ça devient une zone de fabrication pour l'export. Donc il y a certainement plein de choses à jouer là aussi d'un point de vue industriel. Donc c'est un marché qui nous plaît beaucoup.
Merci beaucoup messieurs. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Adrien Dumas, Mandarine Gestion, Eric Turgeman, Ophi Invest Asset Management et Bertrand Puif, Fidelity International.